Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Pour le ministre de l'Intérieur, la tentative d'attentat contre des policiers hier sur les Champs-Élysées vient rappeler que le niveau de la menace terroriste en France est extrêmement élevé. Raison de plus, selon Gérard Collomb, pour prolonger une nouvelle fois l'état d'urgence. Le projet de loi permettant de le reconduire jusqu'au 1er novembre sera présenté demain en Conseil des ministres avec un autre texte ayant vocation, lui, à inscrire dans le droit commun un certain nombre de dispositions qui relèvent aujourd'hui de l'exception. C'est le journal Le Monde qui a révélé la semaine dernière les grandes lignes de l'avant-projet de loi. Assignation à résidence, perquisitions administratives, fermeture de lieux de culte, zones de protection et de sécurité, liste le journal. Toutes ces mesures emblématiques du régime d'exception créé en 1955 pendant la guerre d'Algérie devraient se retrouver dans la loi ordinaire. Alors on peut y voir une forme de cohérence juridique. À partir du moment où la menace terroriste se prolonge, il peut s'avérer nécessaire d'inscrire plus durablement dans la loi des mesures de moins en moins exceptionnelles. Mais une fois cette nouvelle loi promulguée, que se passera-t-il en cas de nouvel attentat? Faudra-t-il imaginer d'autres procédures d'urgence pour répondre aux failles du système? Alors, état d'urgence, que devient l'exception quand l'exception devient la règle? Eh bien, c'est de cette question et de bien d'autres dont nous allons discuter ce soir avec nos invités. À commencer par vous, Vanessa Codaccioni, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, politologue, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 8. Vous avez publié aux éditions du CNRS, c'était en 2015, Justice d'exception, l'État face aux crimes politiques et terroristes. Pour discuter avec vous, Guilain Benessa, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, enseignant à l'Université de Strasbourg. Vous venez de publier, enfin c'était en début d'année aux éditions de l'Archipel, l'état de droit à l'épreuve du terrorisme. Vous avez en particulier travaillé sur l'état d'exception aux États-Unis, même s'il ne porte pas précisément ce nom-là, aux États-Unis après le 11 septembre 2001. Puis notre troisième invité, Flore Vasseur, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, écrivaine, vous venez de signer un documentaire Meeting Snowden qui a été diffusé sur Arte il y a quelques jours et qui est toujours visible pendant encore une petite vingtaine de jours,
jusqu'au
15
juillet.
Voilà, sur le site. Vous êtes allé à la rencontre d'Edward Snowden, cet ancien membre de la NSA qui avait révélé ce vaste système de surveillance de cette agence du renseignement américain. Vous y êtes allé avec un juriste américain, Larry Lessig, et une députée islandaise, Birgitta Jónsdóttir, qui fait partie du parti pirate, pour un débat sur la démocratie. Évidemment, il a été question de la façon dont les démocraties réagissent à cette menace terroriste. Alors, je le disais en tout début d'émission, introduction, le Conseil des ministres demain va décider de prolonger l'état d'urgence. Ça sera la sixième prolongation depuis le 13 novembre 2015. Vanessa Codaccioni, est-ce que la France avait déjà connu une période aussi longue sous ce régime de l'état d'urgence, ou bien est-ce qu'on a battu les records?
Alors pour l'instant, on n'a pas battu de record. Le record, c'est pendant la guerre d'Algérie entre 1961 et 1963, où il avait duré 2 ans après le putsch des généraux. Et en plus, il faut dire qu'il s'était cumulé avec l'article 16 de la Constitution qui donnait les pleins pouvoirs au général de Gaulle. Donc on n'a pas battu ce record-là. On le battra en novembre. C'est-à-dire, là, ça fera 2 ans, on commencera à battre le record. C'est précisément à ce moment-là qu'Emmanuel Macron a décidé, a priori, de supprimer, de finir l'état d'urgence au bout de 2 ans. Donc, on sera à la limite de cette durée atteinte par la guerre d'Algérie.
Flore Vasseur, je le disais, ce sera la sixième prolongation de l'état d'urgence. Alors, ça va être décidé demain, enfin, ça va être présenté dans une loi demain au Conseil des ministres. Encore faudra-t-il que ce soit validé par le Parlement. Enfin, il y a assez peu de suspense à ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui, en soi, vous paraît problématique sur le plan, disons, des principes démocratiques?
Bah, je crois qu'on est en train d'entériner une évolution de société dans laquelle il faut avoir peur, dans laquelle il faut se méfier de son citoyen, de son concitoyen, dans laquelle les citoyens sont des menaces potentielles. Et donc voilà ce qu'on est en train de faire. On est, au nom du terrorisme, en train de valider cette vision-là de la société et de l'homme dans une grande indifférence, j'ai l'impression. Voilà, au nom du terrorisme, on revient sur des droits fondamentaux et nos libertés acquises de longue date sont avec peu de débats et effectivement avec peu de mystère sur la capacité du Parlement à résister à cette impulsion. Donc, d'où l'importance des discussions qu'on peut avoir ici et ailleurs pour qu'enfin les gens prennent conscience de ce qui est en train de se jouer.
Quelques parlementaire dans la précédente législature s'était manifesté pour dire bah voilà, il faut mettre fin à l'état d'urgence parce que du point de vue de l'efficacité, ce sont des mesures d'exception qui ont prouvé leurs limites. Elles pouvaient être intéressantes au tout début après les attentats de novembre 2015. Elles ne le sont plus aujourd'hui. C'est vrai qu'avec le renouvellement de l'Assemblée, là, ça va rebattre un petit peu les cartes. Est-ce que vous partagez, Guylain Benessa, le point de vue de Flore Vasseur?
Alors, oui et non. Alors, que la société ait changé et qu'on en vienne à des dispositifs inenvisageables il y a quelque temps, c'est une évidence. Par contre, moi, je considère que malheureusement, c'est le réel. C'est-à-dire, le tragique a frappé. Et j'ai tendance à penser plutôt que ça se construit. C'est terrifiant, hein, parce que ce que je vais dire est vraiment pas très réjouissant. Mais je pense que ça s'inscrit malheureusement dans un contexte global qui est que le conflit revient à nos portes. C'est-à-dire, depuis longtemps, on avait un petit peu envisagé les choses avec une certaine forme d'angélisme. En tout cas, de quelque chose de positif, irradié... à mon sens, le continent européen. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'on voit revenir une violence terrifiante. Et cette violence, elle frappe en plein cœur de notre société. Et ce qui est terrifiant avec le terrorisme, et le droit d'ailleurs aujourd'hui est un peu confronté à ce problème, c'est que le terrorisme, on ne sait pas quand il commence, on ne sait pas quand il finit. Et en même temps, il faut quand même faire quelque chose. Et on est au milieu du guet avec énormément de problématiques. Et c'est pas pour défendre le fait forcément de l'inscrire dans la loi. Mais je pense que le discours juridique doit changer. Et pour l'instant, on ne sait pas trop comment le faire évoluer. Et on est encore contraint par ce mécanisme des années 50 qu'on perpétue sans vraiment repenser. Et on est un peu entre les deux, comme ça, un peu paumé, à mon avis, pour l'instant en tout cas.
Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, Guylain Benessa, alors l'état d'urgence et le discours juridique, il est là pour répondre à une situation d'urgence, de menace, et doit contribuer à faire baisser la menace, ou bien est-ce qu'il est d'abord là pour répondre, on va dire, à une inquiétude peut-être de la population, et que du coup, reconduire l'état d'urgence, en particulier au surlendemain d'une nouvelle tentative d'attentat, c'est la seule solution politiquement possible, disons?
Alors, le problème, c'est qu'au niveau de l'efficacité, ça semble, pour l'instant en tout cas, ça semble un problème, puisque l'état d'urgence en tout cas, pour l'instant, on admet quand même que l'état d'urgence n'est pas fondamentalement efficace. Mais je pense que c'est pas tellement la question de l'efficacité. Je pense que l'énorme problème, c'est qu'une majorité de Français se sent assaillis par une peur. Alors la peur, on l'a tous vécu à des moments divers et variés. Et le problème, c'est que il faut répondre à cela d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, est-ce que c'est la meilleure des manières de répondre? Certainement pas. Mais si on ne fait rien, c'est un problème. Si on fait quelque chose, c'est un problème. Et il faut quand même que le gouvernement envisage une refonte, à mon avis, de l'équilibre entre sécurité et liberté. Est-ce que ça passe par l'état d'urgence? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la première réponse. Et à mon avis, il faut construire maintenant concrètement un modèle vraiment opérationnel pour la guerre contre le terrorisme.
Vanessa Codaccioni, je ne vais pas trahir votre pensée en disant que vous considérez que ça n'est pas la bonne méthode, puisque début janvier, vous aviez co-signé une tribune, je crois que c'était également dans le journal Le Monde, hein, qu'elle avait été publiée, dans laquelle vous dénonciez un risque de pérennisation de l'état d'urgence.
Alors, en réalité, moi je dénonce la pérennisation de l'état d'urgence et ses dérives depuis novembre 2015, hein, même dans un contexte plutôt difficile, mais au regard de mes travaux de recherche, et de ce que j'avais pu observer dans l'histoire, j'avais crainte qu'il y ait pérennisation et banalisation de l'exception, et c'est tout à fait ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que l'exception, elle dure, elle rentre dans le droit commun, elle rentre dans l'appareil répressif, et c'est un mécanisme qui est irréversible. C'est fini, on ne pourra plus revenir en arrière.
C'est-à-dire, au regard de l'histoire, on pouvait s'attendre à ce que ce dispositif qui est censé être temporaire en vienne à durer assez longtemps, même si... Là, l'idée, c'est aussi d'inscrire dans le droit commun, justement, des dispositions qui, de coup, ne seront plus des dispositions exceptionnelles.
Il y a les deux mouvements dans l'histoire. On voit très bien que si on regarde l'histoire de la Ve République, on a des phénomènes de pérennisation de l'exception. Moi, j'avais travaillé sur la Cour de sûreté de l'État, qui était une juridiction d'exception mise en place, justement, contre le terrorisme de l'OAS, et qui a ensuite servi contre le FLNC, le TA, l'action directe, etc., et qui s'est pérennisée. C'est-à-dire qu'au lieu de durer quelques semaines ou quelques mois, elle a duré 18 ans. Ça, c'est un premier phénomène, pérennisation de l'exception. Mais on voit ensuite que, par exemple, elle autorisait une garde à vue de 5 jours, 6 jours, 7 jours. Seule la Cour de sûreté de l'État permettait ça. Quand on a supprimé la Cour de sûreté de l'État, ensuite on a re-instauré cette garde à vue prolongée. Donc on a sorti cette garde à vue prolongée d'une juridiction et on l'a autonomisée. C'est ce qu'on est en train de faire. On prend des dispositifs de l'état d'urgence, on les sort de l'état d'urgence, on les émancipe et on les fait rentrer dans le droit commun.
Flore Vasseur.
Oui, ben je crois qu'on en est exactement là. Finalement, vous l'avez dit vous-même, l'efficacité des mesures de l'état d'urgence sont démontrées par personne. Donc, on est en train d'appuyer un dispositif qui n'est pas efficace pour répondre, vous l'avez dit vous-même, à une peur de la population qui est entretenue, c'est mon point, ou en tout cas suggérée, ou en tout cas décrétée, c'est ce que vous semblez dire. Mais est-ce que là, finalement, est-ce qu'on n'est pas exactement en train de faire le jeu, justement, profondément, du terrorisme, qui n'est pas seulement d'effrayer ou de terroriser au tenté au moment de l'acte, mais de profondément touché aux institutions et aux libertés fondamentales en misant exactement sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le fait que les gouvernements sont dépassés par rapport à ce problème, qu'il y a peu de mesures de prévention, il n'y a que de la réaction, et donc la peur et la réaction à la peur devient la seule réponse politique possible avec un citoyen qui se retrouve d'un côté coincé exactement entre le marteau et l'enclume, avec d'un côté la menace terroriste, de l'autre côté un État dit de droit qui est en train de rogner sur ses libertés fondamentales. Donc le grand perdant de cette affaire, c'est le citoyen. Et à long terme, ce qui est en train de se jouer, c'est le jeu exact de ce que attendent les terroristes, c'est-à-dire une volonté profonde de détruire notre modèle social, ce qu'est notre société. Je suis pas d'accord avec vous pour dire que notre société a changé. Je pense que notre regard sur la société a changé. On est en train de commencer à instituer un système dans lequel tout le monde a peur des uns et des autres. Et on le passe dans le droit.
Bah, Flore Vasseur-Escoeur, en tout cas, les réactions n'ont quand même pas changé. Souvenez-vous ce qui se passe en janvier 2015. Alors, on sait que depuis, on a énormément nuancé ce que pouvait être ce mouvement, qui était quand même un mouvement de masse suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher de Vincennes, mais où les gens disaient en gros, voilà, on ne se laissera pas désunir par le terrorisme. En novembre 2015, il y avait notamment aussi ce mouvement de dire, bah voilà, on veut continuer à vivre comme on vivait avant, on veut continuer à aller en terrasse, et puis l'état d'urgence est prolongé, et puis il y a un certain nombre de nouvelles lois sur le terrorisme, sur le renseignement qui sont prises, et on ne voit pas de réaction massive aujourd'hui. Si les gens manifestent dans la rue, ça a été peut-être le cas l'an dernier contre la loi travail, mais contre les mesures d'urgence, on n'a rien vu.
Mais j'ai l'impression que c'est comme si les citoyens intégraient cette impuissance du politique. Et que donc, y a cette réponse-là qui est faite d'autorité. Effectivement, la seule réponse du citoyen aujourd'hui, et qui est un peu futile, c'est de dire « mais moi, je continue à boire des coups en terrasse ». Voilà, c'est comme ça que je dis aux terroristes que j'ai pas peur. Mais par contre, pour aller défendre ses droits, il n'y a personne. Je pense qu'il y a un problème de prise en compte de ce qui est vraiment en train de se passer, en fait. Qui est vraiment une déréliction de nos droits et une profonde atteinte à ce qu'est la démocratie au nom de cela, au nom de cette peur.
Guilherme Benessa, si je vous ai bien lu, vous dites que finalement aussi c'est cet état d'urgence prolongé, ces différentes législations, elles répondent aussi, et peut-être d'ailleurs avant tout, un besoin social.
Ah oui, oui, bien sûr. Vous savez, le politique, sur le fond, est là pour cela, en grande partie. C'est-à-dire que le politique est quand même là pour, je veux dire, pour être l'expression à la volonté générale. Je ne veux pas faire de grandes théories là-dessus, mais je veux dire, la loi est censée être l'expression à la volonté générale. Je n'ai pas dit l'expression à la volonté sondagière, hein, parce que je sais très bien les limites des sondages. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, il y a un besoin de réconfort de la part de la population, il y a un besoin de réconfort. Alors c'est vrai qu'on traduit d'une certaine manière. Alors là, je suis d'accord sur la question de la traduction, on est d'accord. Par contre, ce que j'observe, et effectivement, je suis d'accord, il y a des leçons historiques, mais il n'y a pas que des leçons historiques là-dessus. Quand vous parliez tout à l'heure, Vanessa, de la question de l'article 16, par exemple, on a utilisé l'article 16 sans le pérenniser.
Donc je rappelle l'article 16, les pleins pouvoirs.
Absolument. Or, on sait qu'à l'époque déjà, lorsque le général de Gaulle invoque l'article 16 pour concrètement régler la question algérienne dans le contexte de difficultés de cette époque, on sait bien que on lui a déjà balancé un petit peu ce qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, c'est la fameuse question du coup d'État permanent façon François Mitterrand, où on s'imagine que c'est un fascisme en puissance qui est en train de venir en France. Je dis pas que le pire n'est pas à venir et que c'est pas grave que l'état d'urgence se pérennise. Je dis juste que ce qui est terrifiant aussi, c'est qu'on s'imagine toujours que les choses sont chronologiquement réglées. C'est-à-dire que si on donne un peu de liberté, demain on va forcément donner toutes les libertés. Je dis que c'est plus compliqué que ça. On est justement dans une zone grise, et certes, il y a l'effroi des citoyens, il y a la perte de liberté, mais il y a aussi des morts dans les rues tous les trois jours. Donc je dis, attention, ne nous trompons pas forcément toujours d'ennemis, parce que le problème, moi je trouve, c'est qu'il faut rester entre les deux, c'est-à-dire il faut être vigilant à l'égard des autorités, mais il faut surtout aussi être très vigilant face à l'espèce de liste mortifère qu'on vit depuis 3 ans. Moi, je suis né à une époque, on m'aurait dit que tous les 10 ou 15 jours, il y a quelque chose qui se passe de cette nature-là. Je me dis, bon, en fait, c'est Mars, quoi. C'est la planète Mars, ça a tellement changé.
Alors, il faut être vigilant, dites-vous, Guylain Benessa, à condition d'avoir aussi toute la possibilité d'exercer cette vigilance. Je voudrais vous faire entendre un extrait du film de Flore Vasseur, Meeting Snowden. C'est Edward Snowden, c'est au début du film, qui explique que il y a des mesures de surveillance qui sont mises en place au nom de la lutte contre le terrorisme et qui ont parfois, en tout cas là en l'occurrence aux États-Unis, d'autres objectifs que cette lutte contre le terrorisme.
De plus en plus, les gouvernements considèrent le piratage comme légal tant que c'est eux qui le pratiquent. Et bien sûr, il y a parfois des raisons valables à cela. Mais en réalité, et c'est la Maison-Blanche qui le dit, la surveillance n'a jamais empêché la moindre attaque terroriste. Ces programmes ne concernent pas le terrorisme. Ils sont des outils de manipulation, d'espionnage économique et d'influence sociale. Des outils de pouvoir.
Voilà, Edward Snowden, traduit par Louise Fuseau. Flore Vasseur, voilà, c'est aussi un problème. C'est-à-dire quand l'objectif affiché ne correspond pas tout à fait à l'objectif véritablement recherché.
Oui, la surveillance à bon dos. Effectivement, l'enjeu derrière, c'est un contrôle social des populations. On est en train d'entrer dans cette ère qui s'appelle, dit, le capitalisme de surveillance, dans laquelle l'économie de marché est en train de fusionner avec l'état de surveillance, avec un énorme marché derrière. C'est peut-être la dernière allumette du capitalisme. Et en fait, la bataille qui se joue aujourd'hui n'est plus celle de notre pouvoir d'achat, elle est celle de nos cerveaux. La capacité à penser par soi-même, à avoir ses propres choix, ses propres désirs, c'est ça qui est attaqué. Alors, je suis d'accord avec le fait que le problème du terrorisme existe. Je suis d'accord avec le fait que c'est gravissime. Je suis aussi consciente du fait que chaque jour, il y a des gens qui sont en train de mourir de chaud. Que chaque jour, il y a des gens qui arrivent parce qu'il y a un énorme, énorme, énorme problème climatique. Le problème de climat, aujourd'hui, tue beaucoup plus, infiniment plus que le terrorisme. Mais la première loi que ce gouvernement va faire, c'est une loi de restriction de liberté. Je voudrais juste contribuer à alerter les gens sur ce qui est en train de profondément se passer. Encore une fois, ce qui est touché ici, c'est notre capacité à réfléchir, à penser et à choisir pour nous-mêmes. La surveillance de masse, elle dit à tout le monde, vous êtes tous susceptibles de devenir un jour une menace pour l'État. Qu'est-ce que c'est qu'être un terroriste? Est-ce que c'est penser contre Emmanuel Macron dans 10 ans, c'est ça?
Vanessa Codaccioni.
Oui, alors déjà, je voudrais préciser, parce qu'on a l'impression qu'on ne fait rien, qu'on a l'appareil antiterroriste le plus complet d'Europe. Je pense que c'est quand même important de le signaler. On a une 20aine de législations. Donc ça, c'est la première chose. Sur la question de l'acceptation, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et ça rejoint la question de la surveillance. Pourquoi est-ce qu'une majorité de la population accepte l'état d'urgence, va accepter ce projet de loi sans trop sourciller? C'est déjà parce qu'il y a un manque de pédagogie. Cette inefficacité de l'état d'urgence que tout le monde connaît, quand on regarde un peu les dossiers, elle n'est dite par personne, par aucun responsable politique, homme ou femme, aux responsabilités.
Il y a quand même une commission parlementaire qui... il faut lire forcément le rapport en entier, mais enfin, qui était assez critique.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, au niveau des responsables, ça ne va pas les empêcher de proposer la prolongation de l'état d'urgence et sa pérennisation dans le droit commun.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de vocabulaire aussi, de dénomination? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on appelle ça état d'urgence et qui continue à y avoir des attentats, est-ce que en finir avec l'état d'urgence, ça ne voudrait pas envoyer le signal de dire il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus de menace? Donc est-ce que finalement c'est pas aussi un peu compliqué, c'est-à-dire politiquement justement, d'assumer une décision qui voudrait dire il n'y a plus du tout de menace terroriste? C'est compliqué d'aller dans le sens inverse quand on est allé aussi loin justement dans...
Oui, alors ce qui est très inquiétant, c'est, et j'en reviens à votre question sur la surveillance, c'est qu'il y a toujours 3 dérives de l'exception. Première dérive, elle dure. Deuxième dérive, elle touche l'état de droit et elle contourne l'autorité judiciaire. Troisième dérive, elle touche de plus en plus de gens et des gens qui n'étaient pas du tout prévus au départ. Votre question sur qu'est-ce qu'on fait après l'état d'urgence, en gros, c'est celle-là. La question, c'est Emmanuel Macron, il veut en fait ne pas être accusé d'avoir prolongé éternam l'état d'urgence et d'avoir dépassé ce record historique de la guerre d'Algérie dont on parlait tout à l'heure. Donc il va faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun. Mais ce qui est très inquiétant par rapport à ce que vous disiez, si on fait rentrer l'état d'urgence dans le droit commun et qu'il se passe un attentat gravissime, et ça peut arriver, on le sait tous, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On sait que les hommes et les femmes politiques ne savent pas réagir autrement aux attentats qu'en proclamant des mesures exceptionnelles, en proposant toujours plus. Des camps d'internement, la réouverture du bagne, la déchéance de nationalité, Guantanamo, la française, on a tout entendu. Que va-t-il se passer une fois qu'il n'y aura plus d'état d'urgence et que tous ces dispositifs-là, ils vont encore proposer autre chose, d'encore plus dangereux, d'encore plus attentatoire aux libertés et qui va toucher, une fois encore, d'autres cibles. Et vous reveniez tout à l'heure sur la question, on disait les détournements. C'est une forme de domination sociale, l'état d'urgence, de contrôle des populations, mais c'est aussi une manière de discriminer des individus. Parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est ce qui me gêne dans les expressions d'état d'urgence permanent, c'est que les états d'exception ou l'exception, elle est toujours ciblée en fonction de critères aussi communautaires. On va aller chercher des musulmanes et des musulmans. Et donc, c'est un outil de discrimination, l'état d'urgence aujourd'hui, qui va toucher aussi des militants d'extrême gauche. Donc, le danger, il est là aussi.
Alors vous, Guylain Bénessat, dans votre livre qui est très récent, hein, « L'état de droit, l'épreuve du terrorisme », vous défendez en tout cas, vous expliquez, vous allez beaucoup vous inspirer de ce qui s'est passé aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001, avec évidemment ce fameux Patriot Act, même si depuis le Congrès américain est revenu un peu en arrière, en limitant le pouvoir de la NSA. Mais vous expliquez que finalement, le bon choix, c'est peut-être celui du pragmatisme et qu'il ne faut pas forcément être trop, attaché à des principes, mais qu'il faut simplement évaluer les mesures, c'est-à-dire s'il y a des mesures attentatoires aux libertés, mais que ça permet justement d'augmenter le bien-être et la sécurité des citoyens, ce sont des choses qui valent le coup. Est-ce que du coup, ça peut justifier le fait qu'on inscrive dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence qui, vous paraîtrait tout à fait...
Alors, c'est bien que vous entrez par une porte qui me permet de réagir à ce qui vient d'être dit en même temps. En fait, l'une des raisons pour laquelle je suis allé gratter aux États-Unis cette chose-là, et je suis allé justement, j'ai tenté de démystifier une partie de ce qui a pu être dit aux États-Unis pour aller plus en profondeur sur les juristes et la construction qui a été façonnée après le 11 septembre, c'est parce que moi j'étais bloqué en tant que juriste sur un écueil. Qui est un écueil qu'on est en train de vivre en plein avec la loi sur le terrorisme, c'est justement l'écueil de ne voir les choses que par le prisme normal-exception. À mon sens, c'est vraiment une erreur. Faut surtout pas rentrer là-dedans, parce qu'en fait, ça bipolarise les choses d'une manière où on est d'un côté un idéal, qui est l'application correcte du droit parfaitement, et de l'autre côté, le totalitarisme sommeillant qui se révélerait dans sa part d'ombre. Je pense que, justement, en posant les choses comme ça, on est happé par un discours politisé, extrêmement caricatural, et qui développe en son sein une opération de réduction. Je m'explique. Par exemple, Giorgio Agamben, grand philosophe au demeurant, qui a beaucoup bossé sur l'état d'exception, c'est à la fois une formidable porte d'entrée et franchement une erreur juridique de première. C'est-à-dire que quand on lit Giorgio Agamben, il mélange, c'est passionnant, c'est très stimulant, mais pour un jury, c'est pas satisfaisant. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il mélange des décrets, des executive orders, la théorie allemande de l'époque, etc. Et il essaye d'en faire un gloubi-boulga sur l'état d'exception.
Mais alors ça veut dire que pour vous, quelle est la bonne alternative?
Alors justement, pour essayer de ne pas tout mettre ensemble, pour pas penser que toute mesure est un état d'exception, par exemple, l'état d'urgence, c'est pas un état d'exception. L'état d'urgence, c'est une modalité prévue par l'état de droit, dans un cadre temporaire. Que ça devienne, sur le fond, un état d'exception si on en fait dire autre chose, évidemment. Mais à l'origine, ça l'est pas. Et du coup, pour sortir de ça, moi, ce que j'ai trouvé opérant, c'était pas se poser la question du bien ou du mal ou de l'état de droit contre son envers exceptionnel, c'est d'avoir un regard beaucoup plus pragmatique, effectivement. Moi, j'avoue, j'ai été intéressé, même vraiment, par ce qu'on appelle l'utilitarisme, c'est-à-dire une conception de je fais une balance coût-avantage, je suis état, je vois ce qui peut marcher ou ce qui peut pas marcher, et au moins naïvement, ça peut pas être naïf et candide, mais je pense que de temps en temps, et c'est un problème français qu'on a depuis les millénaires, on a tendance à politiser n'importe quel problème qui se pose à outrance. Et de temps en temps, essayons de faire une balance un peu rationnelle, sans essayer de monter le tout en bourrichon.
Je vois que Flore Vasseur et Vanessa Codaccioni réagissent à cette approche utilitariste.
Flore Vasseur. Oui, alors l'analyse coût-avantage appliquée aux droits de l'homme, ça me fait quand même un peu mal. Je m'excuse, mais depuis...
Mais on peut vous rétorquer, mais le premier des droits de l'homme, c'est la sécurité.
Enfin, vous savez, cette fameuse phrase qu'on
ressort
depuis...
Oui, mais est-ce que c'est vivre en sécurité que vivre dans un État qui sait tout de vous tout le temps? C'est une question qu'on doit quand même se poser. Donc, les preuves des faits. Septembre 2001, attentat du 11 septembre, un Patriot Act derrière, plein pouvoir à la NSA, ou en tout cas déploiement de la NSA et de tous les programmes qui n'étaient pas légalisés ou déployés jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez me dire droit dans les yeux qu'aux États-Unis, on vit plus heureux aujourd'hui?
Qu'il y a combien de temps?
Qu'en 2001? Qu'avant 2001?
Attendez.
Est-ce qu'on est plus libre?
On peut pas répondre à cette question, c'est assez unilatéral comme ça. Est-ce que c'est mieux?
Je sais pas. Il paraît qu'on politise tout. Je veux juste regarder.
Si on veut pas dépolitiser, il faut essayer d'être dépassionné. Pas se demander si c'était mieux ou pas mieux.
C'est vous qui faites une analyse coût-avantage.
Ah, mais en adoptant les yeux en interne, c'est-à-dire en se demandant.
Les chiffres? Vous voulez regarder les chiffres?
Non, mais. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que vous avez un nombre de rapports aux États-Unis sur 15 ans qui arrivent à vous dire qu'on a arrêté tant et tant de personnes étaient susceptibles.
Ah oui, alors citez-moi ces rapports, ça m'intéresse. Parce que, alors, vraiment, l'efficacité du Patriot Act.
Je parle pas de. Non, parce qu'on twiste tout. Je vous dis juste que. Non, mais je suis pas en train de faire l'apologie du pire du tout. Je dis juste que très souvent, on a tendance à. Moi, j'ai essayé de faire la démarche inverse, de me dire, ok, c'est peut-être le diable incarné tout ce qu'on a pu faire, mais au lieu de nous attarder sur souvent ce qu'on en dit, essayons de voir un peu le regard en intérieur, de voir comment est-ce que ces juristes, comment est-ce que ces types qui sont pas des idiots, qui sont pas des malades mentaux, ont essayé de traduire des éléments juridiques pour répondre à des questions. Attendez, je suis pas en train de faire l'apologie du tout. Je dis juste qu'il faut rester mesuré plutôt que d'avoir un regard comme ça tout de suite surplombant rapidement.
En tout cas, ça veut dire pour vous, Flore Vasseur, que ce sont d'abord les principes qui doivent guider les choix plutôt qu'une approche qui est comme celle que nous présente Guylain Benessa.
C'est un débat vieux comme le monde. L'éthique n'est pas la loi, la loi n'est pas l'éthique. Mais où est l'éthique dans cette discussion-là? Où est-ce qu'on passe la place de l'homme? Où est-ce qu'on place le projet de société? Alors, je veux bien qu'on considère que c'est un projet passionné, mais je sais pas, moi je suis citoyenne, j'appartiens à un pays qui a fait un certain nombre de choses et qui a été une espèce de phare dans la nuit sur un certain nombre de droits qui a inondé le monde. Oui, je suis choquée qu'on balaye ça d'un revers de main, avec peu de débat, avec une analyse coût-avantage. Je sais pas, je suis autre chose qu'une capacité de transaction qu'on va maximiser jusqu'à sa mort. Je m'interroge sur cette évolution de société qu'on est en train d'accepter sans aucun sourcillement.
Vanessa Codaccioni.
Oui, alors je ne sais pas s'il faut vraiment parler efficacité. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Parce qu'est-ce qu'il faut être pragmatique dans ce cas? J'en sais rien. Mais on peut rentrer...
Toutes les politiques méritent d'être évaluées.
Tout à fait.
Justement, et l'efficacité est un des critères d'évaluation.
Alors justement, moi je veux bien rentrer dans ce discours pragmatique et analyser l'état d'urgence au prisme utilitariste. L'état d'urgence n'a pas été efficace puisqu'on le sait, il y a eu très peu de procédures judiciaires. C'est-à-dire beaucoup de perquisitions, beaucoup d'assignations à résidence, mais finalement très peu de personnes mises en examen. Autrement dit, tous les actes qui ont été faits par l'administration étaient sur la base du soupçon, hein, de la présomption de culpabilité, mais n'ont rien donné au niveau judiciaire. Donc c'était c'était pas des terroristes, comme on le disait.
On parle de 17 attentats déjoués en 2016 en France.
Très bien. 17 attentats déjoués.
Peut-être pas déjoués d'ailleurs grâce à l'état d'urgence.
Voilà. C'est ça, exactement là qu'il faut aller. C'est qu'il y a, s'il y a eu 17 ou 18 attentats qui ont été déjoués l'année dernière, ce n'est pas grâce à l'état d'urgence. C'est grâce à la procédure ordinaire. Et j'en viens à mon propos, qui est de dire, on pourra multiplier tout ce qu'on veut comme dispositif d'exception. D'une part, notre législation antiterroriste est très puissante. Le droit commun, s'il existe encore, et je m'explique tout de suite, pourrait permettre de répondre au terrorisme aujourd'hui. Les juges savent très bien faire des perquisitions, peuvent très bien enfermer des gens, faire des mises en examen, mettre en examen. Mais le problème, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui un droit commun? Est-ce que l'antiterrorisme aujourd'hui est encore du droit commun? J'ai tendance à considérer qu'aujourd'hui, on est déjà dans du droit commun d'exception, c'est-à-dire un droit qui a été rogné par l'exception.
Mais est-ce que ce n'est pas justement une façon d'être plus cohérent juridiquement et de sécuriser finalement la loi que de mettre, puisque c'est le projet de ce projet de loi, de ce nouveau projet de loi sur le terrorisme, que de mettre ces mesures d'exception justement dans le droit commun? C'est-à-dire de finalement d'en finir avec une forme d'ambiguïté.
Non, ça n'est pas finir avec... ça va dans le sens de ce qui est fait depuis le 13 novembre, mais bien avant. C'est-à-dire faire entrer des dispositifs d'exception inefficaces, dans le droit commun, qui vont perdurer dans 5 ans, dans 10 ans, comme on le disait tout à l'heure, qui sera au pouvoir, qui pourra les utiliser, qu'est-ce que vont en faire les préfets, qu'est-ce que vont en faire l'exécutif de ces assignations à résidence quand il y aura des mouvements sociaux, des lois contre lesquelles il faudra lutter, etc. C'est ça la vraie question.
Mais des mesures qui vont durer pendant des années, est-ce que justement le Freedom Act, donc 2015, qui revient sur le Patriot Act, qui l'atténue, qui donne moins de pouvoir de surveillance à la NSA, Flore Vasseur. Est-ce que ça n'est pas... Alors, ça a été peut-être survendu, disons, par rapport à la réalité de ce que pouvait être ce Freedom Act. Enfin, en tout cas, disons que voilà, c'était quand même un petit retour en arrière par rapport au Patriot Act. Est-ce que ça ne prouve pas que rien n'est irréversible et que, en fonction des situations, la loi peut s'adapter et que c'est finalement ça aussi la loi?
Je ne connais pas les motivations, y compris politiques, de Barack Obama pour revenir sur le Patriot Act. Je pense que dans ses derniers 6 mois, il a envoyé plein de signaux pour essayer de temporiser ce qu'il avait perpétué ou continué à faire. Il avait aussi dit qu'il fermerait Guantanamo, il l'a pas fait, etc. Est-ce que le droit est réversible? Je laisse ça aux juristes. Visiblement, je vois ma consoeur qui répond non.
On va voir ce que dit Guylain Benessa juste après vous.
En tout cas, c'est ce qui nous inquiète tous. Et en tout cas, je crois pas que l'évolution... Enfin, on s'est battu pendant... Il y a des milliers de gens qui se sont battus pour ces droits, qu'ils ont arrachés de hautes luttes. On va renier dessus, croire qu'on va pouvoir les réinstaller le lendemain matin parce que tout à coup la menace terroriste aura disparu. Je pense que c'est un leurre. Je pense que effectivement elle est là pour durer, comme toute une série de menaces qu'il faut que notre droit évolue, mais avec ce souci-là de ne pas répondre à la peur par plus de peur. C'est le grand. Ces attentats qu'on subit aujourd'hui sont les filles, les sœurs du 11 septembre. C'est pas c'est une spirale qu'on a lancée et dans laquelle on est complètement empêtré, à laquelle on ne sait plus répondre autrement que de façon réactionnaire. On est là-dedans. Est-ce qu'on continue la spirale? Ou est-ce qu'on regarde vraiment quels sont les dispositifs possibles pour encadrer ça et surtout faire un travail de pédagogie, faire un travail de sensibilisation, faire un travail de prévention? Il est où ce travail? Il est où cet investissement-là?
Guylain Benessa, est-ce que ce qui s'est passé aux États-Unis depuis 2001 vous paraît plutôt rassurant du point de vue de la réversibilité de la loi, c'est-à-dire des mesures qui vont loin dans la lutte contre le terrorisme et dans les atteintes aux libertés individuelles? Parce qu'il y a, c'est assumé de toute manière assez largement le fait qu'il a fallu justement renier sur ces libertés, ou bien est-ce que vous comprenez l'inquiétude là qui est exprimée par Flore Vasseur et par Vanessa Codaccioni, que de dire voilà, plus on avance dans l'exception, plus on est tenté d'avancer encore plus loin et on ne revient jamais en arrière véritablement.
Franchement, je sais que c'est compliqué, je sais très bien ce que ça peut susciter. Moi, je fais pas le défenseur de cela, c'est pas du tout mon débat, en fait, absolument pas. D'ailleurs,
c'est pas comme ça qu'on vous a invité non plus. Non, enfin voilà, vous n'étiez pas là pour jouer à George W. Bush.
Non, mais j'espère bien. ce que moi j'envisage simplement, c'est que d'une part, l'avenir n'est jamais écrit. Donc de venir bille en tête en me disant le droit sera forcément aspiré par le pire, je suis sceptique parce que rien ne permet de le dire. On fait toujours une... Vous savez, il y a un épisode comme ça qui est dramatique évidemment pour ce qu'il est, mais aussi pour les leçons qu'il a données. C'est évidemment la Seconde Guerre mondiale. Et on a une peur constante que le totalitarisme est aux portes et que chaque fois qu'il arrive quelque chose qui répond par plus de sécurité, le pire est à venir. C'est juste que j'ai pas envie de me laisser uniquement mener par le bout de cette baguette-là. Je pense effectivement... Je pense que personne n'imagine une seule seconde qu'il soit bien de revenir sur des libertés. Moi, je pense par exemple que de dépeindre cela, c'est s'imaginer un État qui, dont le but, dont l'essence, en quelque sorte, c'est prendre nos libertés. Or, franchement, aujourd'hui, on en est quand même en partie, en tout cas, libéré. En partie, je sais qu'il y a des problèmes et tout est affaire de lutte, je suis d'accord. Mais on en est un peu sorti. Et je pense simplement que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est malheureusement ce qui va durer très longtemps. C'est-à-dire qu'on a changé totalement de logiciel.
Ce qui nous arrive aujourd'hui, vous voulez dire la menace terroriste?
Mais évidemment, ça fait... On a regardé ce qui est arrivé il y a 15 ans, on a regardé de haut les États-Unis. Moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre. Il y a 15 ans, on les a regardés de haut. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, c'est normal, se disaient, mais on n'aurait jamais répondu comme eux. Vous vous rendez compte combien ils en font? C'est pas possible. Et Al-Qaïda, finalement, c'est qui? Et aujourd'hui, on a un terrorisme discount, parce que c'est du terrorisme bon marché, Daesh, qu'on a, entre guillemets, c'est-à-dire du menu fretin qui essaye essaie de nous détruire par tous les moyens. On est perdu avec cela. Et en plus, les enjeux, et beaucoup de gens, je veux dire, beaucoup d'experts l'admettent, c'est pas un avis, c'est comme ça. Une fois que l'État islamique aura perdu, parce que forcément, militairement, ils perdront, comment va-t-on faire avec les retours? Comment va-t-on faire avec les djihadistes qui vont venir ensuite? Et ma question simplement,
question
c'est
déjà, d'ailleurs.
Comment on fera? Comment l'envisager? Et je pense que ce qui est terrifiant, c'est qu'on essaye de pas l'envisager parce qu'on a peur d'envisager toutes les solutions, tous les problèmes et de mettre sur la table. Vous savez, c'est comme une bonne famille est une famille qui met tout sur la table. Le père de famille vient, met sur la table et les enfants discutent avec. Bah, faisons-le de temps en temps.
Et bah, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, justement. Vanessa Kodachioni.
Je réponds.
Je veux y réagir, c'est pour ça que je vous donne la parole.
Sur la question du totalitarisme, je ne pense pas qu'on est en train d'agiter la menace d'un totalitarisme à nos portes.
Sur la question en tout cas de la réversibilité de la loi, c'est-à-dire de vous qui avez justement travaillé sur cette justice d'exception et notamment sur ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, une fois la guerre terminée, il est resté énormément de choses de cette justice d'exception. Oui. Il y a aussi des choses qui ont disparu.
Il y a des choses qui ont disparu parce qu'en fait, les hommes politiques et les femmes politiques sont assez malins dans le sens qu'ils font un tri entre les dispositifs qui paraissent acceptables et les dispositifs qui ne sont pas acceptables. Par exemple, à la fin de la guerre d'Algérie, on a gardé des juridictions d'exception, mais on a introduit des voies de recours. Pendant la guerre d'Algérie, on avait supprimé les recours devant les recours en grâce, par exemple, ou les recours, vous étiez condamné à mort, vous ne pouvez pas faire de recours. Donc après la guerre d'Algérie, on a réintroduit ça, mais on a laissé tout un tas de mesures d'exception. Qu'est-ce qu'il faut pour rendre ce droit réversible. Il faudrait qu'on ait une Assemblée nationale qui décide...
Il y en a une ? Ah oui, voilà. D'accord. Votre phrase n'est pas terminée,
non,
d'accord.
Non, j'ai pas fini. Qui décide de revenir sur des dispositifs qui ont déjà été votés. Par exemple, pourquoi pas revenir sur la loi renseignement, je ne sais pas, au hasard. Et donc, ça voudrait dire qu'il y ait du débat à l'Assemblée nationale et qu'on ait donc un débat conflictuel entre une droite qui serait défenseuse des libertés, une gauche plutôt défenseuse des libertés et une droite qui serait sur ses positions avec des gens qui prennent des responsabilités et qui reviennent sur ces dispositifs attentatoires aux libertés.
Je ne sais pas si c'est uniquement réductible au clivage droite-gauche.
Il faudrait
qui est compliqué d'ailleurs aujourd'hui à définir. Mais, bon.
Mais justement, parce que depuis le 11 septembre 2001, on n'a plus de clivage gauche-droite en France sur ces questions. Il y a un consensus politique très néfaste et tout ce qu'on vit aujourd'hui aussi découle de ce consensus-là. Et je pense qu'il faut introduire de la conflictualité sur ces questions au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, au niveau des instances aussi dirigeantes. Et ça, on ne l'aura pas. Et ce n'est pas avec les nouvelles élections qu'on a vues là qu'on va avoir un débat et des débats sur l'état d'urgence.
Et là, on est au cœur de la question dont débattent justement Edward Snowden, Larry Lessig et cette députée islandaise. C'est-à-dire, comment sauver la démocratie dans votre film, Fleur Vasseur.
Absolument. Je pense que le constat des activistes aujourd'hui, c'est de dire que le 11 septembre a asphyxié le débat. C'est-à-dire que, grosso modo, s'ériger contre l'État, c'était devenir complètement blasphématoire. C'était impossible, il y avait une telle menace, il y avait une telle peur, il y avait un tel acte gravissime que toutes les activistes se sont tues. Et donc le Patriot Act a pu dérouler, etc., etc. Et effectivement, le film essaye de montrer qu'en fait, cette dérive de la surveillance est une dérive démocratique. C'est un symptôme d'un problème démocratique. C'est pas l'énorme problème. Le problème, c'est que ces questions-là, vous l'avez extrêmement bien dit, on peut plus en débattre. Il n'y a plus d'opposition. C'est comme si la peur, et la peur qu'il y ait un prochain attentat, et de surtout pas être celui responsable de l'attentat, parce qu'on n'aurait pas pris les dispositifs. En fait, moi, j'ai l'impression que avec ces dispositifs, les gouvernements se protègent de tout culpabilité, responsabilité potentielle. Ah oui, on a tout fait, vous avez vu, on a même changé la loi. Ben oui, mais en fait, c'est pas ce qui va arrêter. C'est pas ce qui va arrêter la menace terroriste et les attentats d'arriver. On en a parlé suffisamment aujourd'hui, je crois.
Guillaume Ménessa, ce sera la dernière intervention.
Je vous rejoins en partie, ce qui est terrifiant, mais en même temps qui a été le sel des 10 dernières années. Je finirai avec ça, mais c'est justement ce qui a valu à Barack Obama... qui a voulu changer les choses peut-être de bonne foi, mais qui a remplacé Guantanamo par les assassinats ciblés.
C'est-à-dire
que ce qui est remarquable, c'est pour ça que je ne suis pas fondamentalement en contradiction, contrairement à ce qu'on peut penser. Je pense simplement qu'il a voulu faire quelque chose, et en faisant quelque chose, il a fait pire que le grand Satan revendiqué d'avant. Et ce qu'il faut absolument savoir, pour moi, c'est est-ce que ça a marché ? C'est ça la question. Et quand la France pratique l'assassinat ciblé avec François Hollande, la question n'est pas est-ce que c'est bien ou pas ? Est-ce que ça marche ? Et c'est des questions comme comme ça qu'il faut envisager.
Et comme vous le dites tous ce soir autour de cette table, et voilà, et ben cette émission, on essaie aussi d'y participer, c'est qu'évidemment, le débat, c'est essentiel, notamment sur ce genre de questions, pour se faire un point de vue et puis pour les confronter. Merci en tout cas à tous les trois, Vanessa Kodachioni, Guylain Benessa et Flore Vasseur, d'avoir participé à cette discussion. Merci. Vos ouvrages respectifs, le lien vers votre film, c'est sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Sarah Petitbon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Louise Fuseau, émission réalisée par Lise-Marie Barret, avec à la prise de son Anthony Thomasson. Demain, Erasmus, la mobilité heureuse, nous en discuterons à partir de 18h20. Dans un instant, vous allez retrouver Ping Pong, Mathilde Serrel et Martin Kenen et leurs invités. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Hervé.
Bonsoir Hervé. Erasmus, la mobilité heureuse. C'est un bon sous-titre pour un film de Clapiche. On aurait pu lui en parler. En tout cas, ce soir, on a le retour du réalisateur de la série Les Revenants, Fabrice Gobert, avec son deuxième long-métrage Chaos, qui sort en salle demain.
Et à ses côtés, Gérard Lefort, journaliste défroqué, qui est aujourd'hui un écrivain décidé et qui signe Le Commun des Mortels aux éditions de l'Olivier.
Fabrice Gobert et Gérard Lefort, c'est après le rappel des titres.